Bonjour à tous. Donc je me présente, Dominique Sardou. Je suis adjointe au maire aux affaires sociales à Fondette. Et je suis aussi, j'ai été élue au conseil départemental, anciennement conseil général. Donc je suis conseillère départementale, déléguée en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc je siège aussi à la CDA plénière de la MDPH. Voilà. Donc c'est une élue de terrain qui va vous parler. Voilà, entre autres. Et je veux excuser ma vice-présidente, première VP du conseil départemental, Nadège Arnaud, qui était retenue aujourd'hui. Il faut dire que ce dont on va parler, entre autres, là, on va vous exposer notre schéma de l'autonomie, a été voté ce matin à l'unanimité de l'Assemblée. Alors, je tiens à le dire, parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est... Voilà. Alors, je vais faire un petit contexte. Alors, je suis accompagnée par Flore. Vous vous présentez tout de suite, peut-être ? Oui, c'est comme ça sera fait.
Donc, Flore Morénou, je suis chef de service à la direction d'autonomie au conseil départemental, donc qui s'occupe des personnes âgées et des personnes handicapées.
Voilà. Et puis, avant d'entamer, peut-être que le département, son rôle, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en fin de compte, il accompagne les citoyens au long de leur vie, puisqu'il a en charge, dans ses missions, la protection de l'enfance, donc très tôt avec la PMI, la famille, l'adolescent avec les collèges, hein, bien évidemment, bien sûr les routes, etc. Mais par rapport à la famille, il a ensuite tout le rôle de la protection et de l'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées en lien avec la MDPH. Donc on est très proche, en fin de compte, c'est une collectivité qui reste très proche des usagers et qui veut rester très proche des usagers, hein, en essayant de rendre lisibles toutes les possibilités pour les personnes, pour les usagers justement, en rendant lisibles des documents, des textes parfois très compliqués. On essaie de rendre lisible et surtout simplifier les tâches de nos concitoyens. Voilà. Alors effectivement, le vieillissement de la population est une réalité démographique et sociale. Et selon les projections de la population en Indre-et-Loire, on sait en 2040, une personne sur trois aura plus de 60 ans. Aujourd'hui, une personne sur quatre. Et une personne sur 100 aura plus de 80 ans. Les personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible à domicile et font appel de plus en plus tard à un service d'aide à domicile. En l'occurrence, 75% des bénéficiaires de l'APA, et là on va peut-être rentrer dans des l'allocation pour... je veux bien que vous le disiez plus fort. Oui,
l'allocation, je vais vous en parler un petit peu après. Ouais. C'est l'allocation de personnalisée à l'autonomie à domicile. Voilà. Elle est aussi délivrée en établissement.
Alors, on va être attentive toutes les deux, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'abréviations infernales et qu'elles donnent l'impression d'une connaissance particulière. Non, c'est tout simplement une abréviation. Mais quand on ne la connaît pas, on ne comprend rien à la phrase. Hein. Donc, je vais... non, mais j'ai été professeur, donc je me permets de vous dire ça. C'est vrai que c'est... Voilà. Donc, l'APA, effectivement, 75% des bénéficiaires de l'APA sont âgés de 80 ans. La question de la dépendance et de la vulnérabilité, de la consommation des soins et de services, du vieillissement au travail, de l'aménagement urbain, de la citoyenneté des personnes âgées est au cœur des politiques publiques. Alors la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, qu'on appelle loi ASV, vise à favoriser un portage plus transversal et stratégique de la politique nationale de promotion de l'autonomie des personnes âgées et d'adaptation de la société au vieillissement en mobilisant toutes les politiques publiques. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est désormais le principal texte sur les droits des personnes en situation de handicap. Les enjeux des politiques gérontologiques et des politiques liées aux situations de handicap convergent avec ceux de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé. Alors, je vous propose une première diapositive qui présente en Indre-et-Loire le nombre d'établissements qui peuvent accueillir des personnes âgées. Dans ces établissements, vous avez 88 établissements pour personnes âgées. Et à l'intérieur de ces 80 établissements, vous avez des établissements publics ou privés. Et dans la variété de ces établissements, vous avez ce qu'on appelle les MARPA. Vous avez ensuite ce qu'on appelle nouvellement résidence autonomie, et puis les EHPAD, dont vous connaissez peut-être le terme, qui accueillent des personnes, on va dire, de plus en plus âgées, avec plus de dépendance. Donc vous avez entendu ces jours-ci, effectivement, 48 établissements pour personnes handicapées, 60 accueillants familiaux. Alors, les accueillants familiaux, ce sont des familles, on va dire en général, qui sont agréées par le conseil départemental. 13 400 personnes âgées bénéficiaires de l'APA et des services ménagers, ça c'est sur notre département. 2 700 personnes bénéficient de la PCH, c'est la prestation compensatrice du handicap, ou l'ACTP, et des services ménagers, et enfin tout cela représente pour le département un budget de 144 millions, presque 145 millions. C'est un gros budget. Voilà. Alors, la convergence des politiques en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Alors, le conseil départemental, il est chef de file de l'action sociale et il doit définir et mettre en œuvre cette action sociale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées et de leurs aidants par l'élaboration d'un schéma d'organisation sociale et médico-sociale. Le schéma départemental de l'autonomie pour les 5 années à venir, donc de 2018 à 2022, vient d'être adopté ce matin en assemblée plénière et il est le reflet de la volonté du conseil départemental de faire converger le secteur des personnes âgées et des personnes handicapées. Je tiens à dire tout de suite que quand on dit faire converger les secteurs, ce n'est pas ignorer les spécificités du handicap. Ce schéma unique vise à favoriser le maintien à domicile de ces deux publics le plus longtemps possible, en anticipant leur perte d'autonomie dans un contexte d'allongement de la durée de la vie, projet d'habitat innovant, pont entre les établissements, les services à domicile et dispositifs pour éviter les ruptures dans les parcours de vie, prise en compte des besoins des aidants, en apportant des réponses de qualité adaptées aux besoins individuels et collectifs, favoriser le parcours de vie des personnes, en apportant des réponses de proximité qui garantissent une égalité de traitement sur le territoire, entre par exemple la métropole et la ruralité. Approche territorialisée et transversale des réponses, accueil, information, mobilité, habitat. Schéma d'organisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile, les SAD. À noter que ce schéma a été réalisé avec la participation et l'engagement de l'ensemble des institutions partenaires et représentants d'usagers qui concourent à l'autonomie des personnes. Des groupes de travail ont travaillé pendant 4 mois autour de 4 axes stratégiques. Je veux bien que vous passiez la diapositive suivante. Merci. Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapés le plus longtemps possible, mieux connaître les besoins particuliers des aidants, des jeunes adultes en situation de handicap et des personnes handicapées vieillissantes sur l'ensemble du département, diversifier l'offre de services par le développement des services d'accompagnement à la vie sociale, de l'habitat intermédiaire, de l'accueil de jour et de nuit, de l'hébergement temporaire et des projets innovants. Quand je parle de projets innovants, vous le verrez, c'est aussi pour l'habitat. Et ça, l'élu de terrain peut en parler aussi, que je suis. C'est-à-dire que on voit bien souvent des personnes qui ont des maisons, qui en vieillissant, au moment du veuvage par exemple, souhaitent entrer dans un appartement. Et il n'y a pas forcément un appartement correspondant parce qu'il y a un problème de meubles aussi. Se séparer de ces meubles est compliqué. on est confronté à tout ça. Et puis, il y a besoin aussi de proximité de services. Et je pense que les maires des communes sont très sensibles à ces demandes. Et puisque je siège aussi à la métropole en politique de la ville et habitat, je peux vous dire que là, il y a une sacrée évolution pour la prise en compte de ces manques, si vous voulez. Hein. C'est voilà. Repenser la gouvernance dans le cadre d'une politique partenariale renforcée, toujours sur notre schéma. Donc le travail de ces groupes a abouti à la définition de 6 orientations déclinées en 28 fiches actions réelles. Une des orientations est consacrée au développement ou à la mise en place d'actions visant le répit des aidants. Objet de notre propos aujourd'hui, une fiche action est consacrée au lancement d'un appel à projet d'habitat inclusif destiné à accueillir des personnes âgées et des personnes handicapées. Et ce matin, le président a annoncé entre autres un projet regroupant des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et des personnes handicapées, avec une volonté de revoir les choses au niveau du fonctionnement, c'est-à-dire que ce n'est plus le résident ou le malade qui s'adapte à l'établissement, mais c'est l'établissement qui s'adapte au malade ou au résident. Donc, le projet, il y aura un appel à projet, bien évidemment, hein, entre autres là-dessus. Donc, voilà. Et donc, je vais laisser la place maintenant à Flore et je serai prête à répondre à vos questions après, en particulier peut-être sur l'habitat dans les villes, dans les communes, parce que là, je... Voilà. Merci.
Alors, notre propos est plus axé sur le maintien à domicile. Donc, on n'apportera pas tout ce qui est pris en charge en établissement. En revanche, on peut répondre à toutes vos questions s'il y en a. Donc, pour répondre à ce développement et cette volonté de maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, il existe déjà plusieurs prestations, 2 prestations phares qui sont délivrées par le Conseil départemental. Pour les personnes âgées, il s'agit, comme on vous l'a dit, de l'allocation personnalisée à l'autonomie, qui permet aux personnes âgées de plus de 60 ans, qui sont dépendantes, alors la dépendance, on l'évalue, je vais rentrer un peu dans le technique, mais je vais essayer d'être brève, la dépendance, on l'évalue selon Agir, un groupe ISO-ressources, et le département, les personnes âgées qui sont de GIR 1 à GIR 4 sont les personnes les plus dépendantes. Le GIR 1 et 2, on peut estimer qu'une personne qui est évaluée par nos services d'ailleurs en GIR 1 et 2, ce sont des personnes extrêmement dépendantes, le GIR 1 étant la personne qui est alitée, quoi, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, l'allocation personnalisée à l'autonomie est délivrée à ces personnes. La loi d'adaptation à la société au vieillissement, qui est vraiment la loi phare pour nous, de 2015, a permis de revaloriser cette aide. Non seulement de revaloriser l'aide, mais également de pouvoir la donner de pouvoir l'attribuer à plus de personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles peuvent bénéficier d'aide humaine et d'aide technique pour les aider à rester à domicile de manière plus importante qu'avant, et leur participation financière a été diminuée grâce aux apports de la loi SV. Pour les personnes handicapées, on parle de la prestation de compensation du handicap qui est délivrée, comme vous l'a dit Madame Sardou, par la CDA, la Commission des droits de l'autonomie. Et cette prestation de compensation du handicap, à la différence de l'APA à domicile, n'a pas, pour ce qui est de l'aide humaine, n'a pas de limite. Autant pour les personnes âgées, les plans d'aide humaine en nombre d'heures ont une limite, autant pour les personnes handicapées, elles peuvent avoir une aide à domicile financé par le conseil départemental 24 heures sur 24. C'est une différence qui est majeure entre les deux. La prestation de compensation du handicap permet également d'apporter aux personnes handicapées des aides techniques, des aides à l'adaptation au logement, des aides pour les vacances adaptées. Les aides couvertes par la prestation de compensation du handicap sont nettement plus importantes pour la personne handicapée que pour la personne âgée. C'est pour ça que la loi d'adaptation de la société au vieillissement a vraiment été une loi d'une prise en compte beaucoup plus importante de la personne âgée que préalablement. Voilà pour ces prestations. Alors, elles existent, elles sont importantes, mais malgré tout, elles ne sont pas suffisantes. Et c'est pour ça qu'on parle maintenant dans toutes les politiques publiques de l'aidant. Et leur rôle est vraiment pivot et central pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, pour une personne âgée très peu autonome, donc les fameux GIR 1 et 2 dont je vous parlais, qui vivent à domicile, ces personnes-là sont aidées en moyenne 2h10 par jour par des professionnels de l'aide à domicile et 5h15 par jour par leurs proches. Donc là, on voit vraiment, on prend la dimension du rôle important des aidants. Pour une personne âgée qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, le proche aidant apporte son aide à hauteur de 6h30 par jour. Donc c'est pour ça, après mon propos, je vais le développer plus sur le profil des aidants. Je crois qu'on en reparlera, on en parlera après à l'occasion de la table ronde. Voilà. Alors, l'aidant, qui est-il ? Oui, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que l'aide aux aidants, c'est vraiment une notion qui est quand même relativement récente. Au niveau national, on se base sur une étude qui a été menée par l'Association française des aidants en 2015. Hormis cette étude, on a encore peu de données sur les aidants, leurs besoins. Les aidants parlent peu, en fait, hein, ont une sorte de, comment dirais-je, de pudeur à parler de leurs besoins, ce qui peut s'entendre, hein, à parler de leurs besoins, à parler de leurs difficultés. Donc on reste encore, c'est encore un terrain qui vient d'entrer dans les politiques publiques, tant au niveau national que du conseil départemental. C'est également un des axes prioritaires pour l'Agence régionale de santé qui va sortir d'ici le printemps son programme régional de santé. Donc c'est nouveau. On tâtonne, il y a déjà des actions, je vais vous en parler, mais on en est au début. Alors, l'aidant, qui est-il ? Il peut être un conjoint, un enfant, un parent, un membre de la famille ou même un membre de l'entourage, un ami, un voisin. Il peut cohabiter ou non avec la personne aidée. L'étude dont je vous parlais, qui a été menée en 2015, on estime qu'il y a en France 8,3 millions de proches aidants et 4 millions vivraient avec le proche aidé. Alors, ils sont âgés en moyenne de 52 ans et 47% occupent encore un emploi. Donc, vous voyez les difficultés que ça peut engendrer. Et ce, quelle que soit la maladie, le handicap et l'âge de l'aidé. Il y a 85% des personnes âgées de 20 à 59 ans qui ont besoin d'être aidées par un proche, ils le sont exclusivement par leurs proches. Ils le sont exclusivement par leurs proches, pardon. Seulement 5% d'entre eux font appel à l'aide de professionnels, donc là il y a encore beaucoup de progrès à faire, et 10% seulement, 10% c'est sur 4 millions hein, quand même, bénéficient d'une aide mixte entre un professionnel et le proche aidé. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose pour les personnes âgées, hein, qui concernent le département. Donc, pour les personnes de 60 ans et plus qui ont besoin d'être aidées du fait de leur handicap ou de leurs problèmes de santé, puisque là, 48% d'entre eux font appel à des professionnels, 48% reçoivent uniquement, pardon, l'aide de leurs proches, 20% font appel à des professionnels et 32% à la fois à des professionnels et à leur entourage. Donc on voit bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour les plus jeunes aidés, puisque là ils font appel plutôt à leurs proches. Les personnes âgées, il y a quand même une certaine habitude de pouvoir faire appel aux professionnels, mais on doit encore le développer. Alors, lorsqu'il s'agit, là je vais m'attacher sur les personnes qui sont en perte d'autonomie, donc qui ont plus de 60 ans, les aidants, font partie majoritairement de ce qu'on appelle la génération pivot. Ce sont les personnes qui sont âgées de 50 à 65 ans, donc des personnes qui sont, pour certaines d'entre elles, encore en emploi, donc qui non seulement, il faut retenir hein, les 5 heures par jour, hein, qui non seulement doivent prendre soin de leurs parents, mais aussi doivent gérer au niveau professionnel pour celles qui travaillent leur fin de carrière, mais également aussi, et là on est au cœur de votre sujet, mais également leur enfant, qu'ils soient étudiants, ou même là, les aides qu'ils peuvent apporter à leur enfant dans leur insertion professionnelle ou leur entrée hein, dans une nouvelle vie familiale. Et tout ça fait que les principales difficultés, toujours de cette étude, hein, je fais référence à cette étude que nous, qui ont été remarquées, qui ont été soulevées, c'est que ces aidants estiment qu'ils ont, on peut le comprendre, un manque de temps pour tout faire. Le stress aussi, c'est générateur de stress, et également la fatigue. Après, je vais m'attacher sur les répercussions que ça peut avoir, pour être un peu plus dans un contexte juridique, sur les répercussions que, ça, que cela peut avoir sur l'activité professionnelle. Pour ceux qui travaillent, eh bien, pour les trois quarts des aidants qui travaillent, qui sont actifs, ils ont dû s'absenter au cours de, des 12 mois de l'année, de façon, enfin, comment dirais-je, en plus, ils ont dû prendre des congés supplémentaires par rapport à leurs congés payés. Voilà, c'est ça. Du fait de leur rôle de leur rôle d'aidant. Beaucoup d'entre eux aussi ont été obligés, parce que leurs congés ne suffisaient pas, ont été obligés de négocier des aménagements. Alors, en priorité des aménagements, et lorsqu'ils le peuvent, hein, lorsque c'est autorisé par leur employeur, des aménagements d'horaires. Mais aussi beaucoup ont été obligés, alors pour 65% d'entre eux, 36% d'entre eux ont été obligés de demander des réductions de leur temps de travail, voire carrément des changements dans la nature de leur poste. Toutes les tranches d'âge sont représentées dans les aidants. On n'a pas une tranche d'âge particulière qui ressort. Les besoins les plus fréquemment rencontrés chez les aidants, alors je vais les citer de manière exhaustive, un besoin de comprendre et de pouvoir se repérer face à la maladie et aux aides existantes, pardon, un besoin de reconnaissance, un besoin de temps pour soi, un besoin d'accompagnement, notamment de soutien psychologique par l'échange avec des pairs ou avec un psychologue, un besoin de soutien financier, un besoin d'aide concrète, lieu d'accueil pour la personne aidée, pardon, dispositif de recours en urgence, quand l'aidant craque ou craint de ne pas parvenir à gérer seul les difficultés, les services à domicile, la coordination des aides. Alors, il y a quand même plusieurs textes qui ont été votés, que je vais vous évoquer rapidement ici, dans les années 2000, et qui ont contribué à reconnaître le rôle et le statut d'aidant. Alors, La loi santé du 4 mars 2002 a introduit le dispositif de la personne de confiance. L'APA en 2001, l'introduction de l'APA en 2001, a donné la possibilité aux personnes âgées d'employer leurs enfants, ce qui n'était pas possible avant. La loi du 11 février 2005 par rapport aux personnes en situation de handicap a rendu possible pour un prêche. Il a rendu possible, pardon, le statut de salarié pour le proche aidant. Voilà, les principales. Alors, après la loi ASV, la dernière loi de décembre 2015, a permis, elle, vraiment d'asseoir le rôle et le statut du proche aidant en allouant des droits spécifiques. Alors, aujourd'hui, la loi dit que l'aidant, c'est la personne qui assure une présence ou une aide indispensable à la vie à domicile de l'âgé et qui ne peut être remplacée pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel. C'est-à-dire que sans elle, le maintien à domicile est impossible. Donc vraiment, là, on voit le rôle central qu'ont les aidants, en fait, pour permettre le maintien à domicile de nos aînés et des personnes handicapées. Alors, si vous pouvez passer la diapo, après je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc la loi ASV pour les personnes âgées, c'est toutes les lois d'ailleurs, ont permis de... quels sont les droits en fait pour les aidants? Donc vous avez la loi ASV, adaptation de la société au vieillissement, hein, a introduit le droit au répit de l'aidant. Il s'agit de permettre, lorsque l'aidant a besoin de souffler, hein, de prendre des vacances, de permettre à la personne âgée de pouvoir financer à hauteur de 500 euros par an un hébergement temporaire, par exemple, ou de financer un service d'aide à domicile qui permette à la personne qui l'aide de pouvoir prendre un peu de repos. Le dispositif d'urgence Oui, c'est ça. Le dispositif d'urgence, là, lorsque l'aidant est hospitalisé, eh bien, la loi ASV prévoit le financement d'un relais dans la limite de 1 000 euros, ce qui est déjà pas mal, hein, jusqu'à 1 000 euros par hospitalisation de l'aidant. Pour l'aidant d'une personne handicapée, donc vous avez le dédommagement familial dont j'ai parlé avant. Donc, si l'aidant est en activité à une activité professionnelle à temps complet ou à temps partiel, il y a une indemnisation minime, hein, quand même, quand vous voyez les montants, à hauteur de 5,54 € par heure. Si l'aidant n'a pas d'activité professionnelle, l'indemnisation est à hauteur de 3,70 € par heure. Tout ça dans la limite, alors c'est assez complexe, dans la limite d'un plan d'aide humaine qui est attribué par la fameuse commission des droits à l'autonomie de la maison départementale pour personnes handicapées. Et alors, je me suis trompée dans le diaporama, c'est pour l'aidant d'une personne handicapée et d'une personne âgée, il y a le congé du proche aidant, qui remplace le congé de soutien familial et qui rend possible la cessation temporaire d'activité pendant 3 mois. Renouvelable jusqu'à 1 an. Ce congé est non rémunéré. Voilà pour les dispositifs principaux. Après, pour aller vite, pour vous expliquer un petit peu que ce rôle d'aidant fait bouger pas mal de choses, il y a eu un rapport, il y a eu les conclusions là le 23 janvier dernier, donc c'est tout récent, c'est de l'actualité toute récente. Il y a eu les conclusions de la mission flash sur les aidants familiaux qui avait été confiée à Pierre Darreville, qui est député des Bouches-du-Rhône. Et les conclusions sont les suivantes. Hein, ce rapport préconise l'indemnisation du proche aidant, c'est-à-dire que là, effectivement, il n'y avait pas de rémunération, mais il propose une indemnisation sur le même montant que l'allocation journalière de présence parentale, à savoir 43,14 € par jour. La possibilité d'allonger ce fameux congé du proche aidant et de lui apporter plus de souplesse, parce que je vous disais que c'est compliqué, hein, pour le travail, pour quelqu'un qui aide son proche de négocier avec son employeur. Eh bien là, le rapport préconise, entre autres, de favoriser, par exemple, le télétravail ou la possibilité de fractionner les congés, ce qui permettrait plus de souplesse, en fait. Il préconise aussi ce rapport la suppression de conditions de saturation du plan d'aide. Alors ça, c'est un peu technique. Je vous disais que les gens avaient droit à 500 € par an, de 500 € par an pour l'aide au répit. Eh bien, aujourd'hui, les plans d'aide des personnes âgées, on peut débloquer ces 500 € lorsqu'ils ne peuvent plus avoir d'aide humaine. Aujourd'hui, là, on dit, bon, le rapport préconise de déplafonner pour donner moins de limites et d'ouvrir ce droit au répit aux aidants qui n'interviennent pas auprès des personnes, qui interviennent auprès de personnes non bénéficiaires de l'APA. Donc, de l'élargir, voilà, c'est ça, à plus d'aidants et d'augmenter ces 500 €. Il préconise enfin, ce rapport, une majoration de la durée de l'assurance vieillesse à hauteur d'un trimestre par période de prise en charge de 30 mois, dans la limite de 8 trimestres, mais je pourrais vous passer l'écrit, comme le dispositif déjà mis en œuvre pour les proches aidants des personnes handicapées. Alors, vous avez aussi, qui s'y est attelé, vous avez aussi, hormis ces améliorations, le Haut Conseil de la Famille, hein, qui a été adopté par le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge, le 12 décembre dernier. Ils ont envisagé aussi plusieurs autres propositions qui vont toutes dans le même sens. Hein, faciliter les aménagements du temps de travail et, en fait, proposer un droit de demander, c'est le « right to request » pour motifs familiaux, le droit de demander à son employeur d'avoir des temps. Donc, c'est un principe qui est inspiré, qui existe déjà au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Et ce droit permettra à tout salarié, parent ou aidant, de demander à son employeur un passage au temps partiel, un aménagement de ses horaires et de son lieu de travail. L'employeur ayant toujours la possibilité de refuser, mais devant motiver ce refus. Voilà. Ce qui change pas la chose. Élargir l'accès au compte épargne temps pour pour des motifs familiaux. Élargir le crédit d'impôt famille aux salariés aussi qui ont à leur charge une personne âgée ou une personne handicapée. j'essaye de faire vite. Alors voilà, ça c'est pour tous les textes législatifs, voilà, en fait. Ça. Hein, ça, on en est là un petit peu. Je finis mon...
Je vous en prie, peut-être rapidement.
Rapidement, oui, je vais essayer d'être vite. Juste pour vous donner des petites... pour vous donner des actions qui existent déjà sur le département. Il y a des cafés des aidants qui ont déjà lieu, des réseaux de soutien, des plateformes de répit. Je fais très vite, hein. Le schéma autonomie consacre 3 de ses fiches actions. Voilà, je fais très court, comme on me demande de limiter. Et puis après, pour le logement, peut-être dire un mot. Vous voulez dire un mot sur le logement, les actions en matière de logement?
Je voulais simplement dire que sur les aidants, lorsque nous avions été à la présentation de la loi SV, il avait été signalé que quelquefois, c'était... Souvent, ça partait de... On a parlé de pudeur, je dirais même d'une culpabilité de l'aidant, de lâcher son parent, entre guillemets, d'aller l'accompagner à un lieu de temporaire, par exemple, que ce soit même une journée. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire au département. Il y a une information, d'abord, peut-être rendre l'information accessible, rendre les démarches plus faciles et permettre de pouvoir emmener son parent, peut-être par une demi-journée, ou déjà comme ça, commencer comme ça. Et on voit bien que souvent, il y a tout un travail déjà psychologique. Bien sûr, le financier, c'est énorme, on est d'accord, mais il n'y a pas que. Il y a tout ce travail qui doit être mené de front. Voilà. Alors après, il y avait quelque chose sur le logement, mais là, on va peut-être pas vous...
Oui,
le logement, vous en avez peut-être parlé.
On en parlera peut-être un petit peu dans la table ronde de qui va suivre. Bon, il y aurait certainement beaucoup de questions à vous poser.
Oui, oui, oui.
En particulier, comment le département travaille aussi avec la famille de la personne âgée ou de la personne handicapée. Et puis, ben, tout le monde le sait, les aides distribuées par le département... par la collectivité, sont en partie récupérables sur les successions.
Ah oui.
Est-ce que le département d'Indre-et-Loire est exemplaire dans le genre, ou bien non, particulièrement...
Oui, on récupère, mais...
Alors,
il faut savoir que le département d'Indre-et-Loire, on peut le dire parce que c'est rare, a fait le choix de ne pas aller au-delà des enfants, vous savez, pour... les petits-enfants ne sont pas... ne sont pas obligés alimentaires. Ça s'arrête aux enfants.
Donc il n'y a pas de récupération par conséquent.
Non. Je le dis parce que c'est...
Et vous avez une idée du volume de la récupération telle que ça peut se faire et que vous faites véritablement, parce que c'est toujours un aspect un petit peu surprenant et, je dirais, un petit peu dérangeant, le moment de la succession venue, où on apprend, on fait le compte, et dit, ben voilà, maintenant, tout ça est réglementaire, il faut récupérer.
Personne n'est pas handicapé.
C'est pas le même taux. On récupère peu.
Oui, les personnes handicapées, comme on le sait, très très peu.
Non, mais c'est que le statut n'est pas le même. Le statut de la personne handicapée et le statut de la personne âgée, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de récupération.
Pratiquement, il n'y a pas de récupération pour les personnes handicapées. On est bien d'accord.
Mais elles sont plus importantes lorsqu'il y en a, puisque c'est des personnes qui vivent quasiment tout le temps en établissement, enfin qui vivent beaucoup plus en établissement et sur de plus longues périodes.
Bien sûr.
Donc c'est pas les mêmes montants. Effectivement, c'est des gros montants quand il y a récupération sur succession. Et vous voulez savoir les montants de... C'est d'ordre...
Le budget du... Je préférais trouver les chiffres par ailleurs.
On était sur l'ordre de 1 million, je crois. Donc ce qui est très peu par rapport au budget de 600 millions du conseil départemental.
Et vous pensez que, compte tenu de cet allongement de vie, des problèmes que cela présente est de plus en plus fort, de plus en plus lourd, qu'un département comme le nôtre, ou plutôt le vôtre, chacun le sien naturellement, va avoir toujours un budget suffisant pour répondre à ces besoins qui iront grandissant, comme ils s'accroissent déjà sensiblement?
Ben pour vous, enfin, je vais dire que là, on peut dire que le conseil départemental, c'est pas parce que j'appartiens à ce conseil, mais pour vous dire qu'il y a une volonté vraiment de l'Assemblée de jouer le jeu et de enfin je trouve, oui. Sur le handicap, on le voit, puisqu'on voit les sommes qui sont engagées pour le département, sans compensation de l'État. Hein. C'est énorme.
Je dis ça d'une manière plus générale, d'ailleurs, parce qu'on voit bien, statistiques à l'appui, comment la population de personnes âgées va croître
bien sûr.
Avec les besoins que cela va entraîner. Et là, on se demande si la collectivité, les collectivités publiques, seront à la hauteur, compte tenu des budgets qui sont les leurs, et compte tenu justement de cette immensité des besoins.
Personnes âgées et personnes handicapées, parce que les personnes handicapées vivent plus longtemps aussi. Donc la problématique est aussi cruciale. Hein, on le voit, nous, il y a une augmentation très nette des besoins des personnes handicapées à domicile. Hein. C'est des budgets qui augmentent de 7% par an depuis 3 ans. Donc c'est important.
Je me demande si par ailleurs, justement, et pour ces cas si nombreux aujourd'hui déjà et demain encore, plus peut-être, il ne va pas falloir finalement mobiliser le patrimoine de la personne pour ces besoins de vie qui peuvent être longs, qui peuvent être importants et profonds, etc. Ça, c'est vraiment sur le plan, je dirais presque macroéconomique.
C'est déjà le cas. Nous, on le voit.
Plus ou moins. Mais évidemment.
De plus en plus, les personnes âgées qui doivent rentrer en EHPAD, aujourd'hui, on constate de plus en plus, et c'est pour ça que les récupérations sur succession vont diminuer, on constate de plus en plus les ventes des biens immobiliers pour pouvoir assumer la charge de...
Et la recherche de rente.
Avec des sorties
de contrat d'assurance vie et beaucoup d'autres choses. Enfin, beaucoup d'autres choses. Il y a une conjugaison là qui est tout à fait dans l'axe du moment, mais c'est compréhensible.
Sachant qu'on travaille tous pour les EHPAD en particulier, on réfléchit pour que le reste à charge des familles n'augmente pas. Or, on sait que malheureusement, c'est il faut faire face. Hein. C'est
grand merci à vous.
Voilà.